avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Olivier Drapé, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de l'Église et la fin de vie.
Tout à fait. On sait que les députés à l'Assemblée nationale, en commission, viennent d'approuver le 11 avril la création de ce qu'ils appellent un droit à l'aide à mourir. Prévoyant même d'ailleurs que la substance létale puisse être administrée par un soignant. C'est pourquoi je vous propose qu'en cette période de Semaine Sainte, nous nous penchions sur l'enseignement de l'Église sur la fin de vie, c'est-à-dire la dignité, la valeur de la vie, le mystère de la souffrance et de la mort, les soins palliatifs et le problème de l'euthanasie, bien entendu. Alors, la dignité est un concept extrêmement important parce que la position de l'Église ou son enseignement sur le respect de la vie en général et sur la fin de vie en particulier serait incompréhensible si on n'avait pas clairement à l'esprit ce que l'Église enseigne sur la dignité de la personne humaine. En particulier, elle le fait dans une déclaration, Dignitas Infinita, du Dicaster pour la doctrine de la foi, du 8 avril 2024, il y a tout juste un an. Elle le fait en rappelant, si vous voulez, pour résumer, que l'homme ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'Église a toujours considéré que cette dignité humaine, elle est inaliénable, elle est intangible. Quelles que soient les fragilités de la personne, quelle que soit sa condition physique ou psychique. C'est ce que je peux voir, en tout cas dans cet extrait que je vous lis. La souffrance ne fait pas perdre à la personne malade la dignité qui lui est propre de manière intrinsèque et inaliénable. La vie humaine, même dans sa condition douloureuse, est porteuse d'une dignité qui doit toujours être respectée, qui ne peut être perdue et dont le respect reste inconditionnel. Donc c'est un premier point qui est important. Et il est important aussi, je crois, de ne pas du tout perdre de vue, au contraire, le problème de la souffrance. C'est un problème central sur ces questions, car beaucoup de personnes sont favorables à l'euthanasie, c'est tout simplement parce qu'elles redoutent, d'ailleurs de façon tout à fait légitime, et comme chacun d'entre nous, la souffrance, bien sûr, et la déchéance. Alors, on a parfois reproché à l'Église d'être, comment dire, doloriste, c'est-à-dire de valoriser la souffrance. Alors, je crois que une nuance s'impose. On le voit à travers Evangelium Vitae, l'encyclique « L'évangile de la vie » de Saint Jean-Paul II, en 95. Jean-Paul II écrit « La souffrance, tout en restant un mal et une épreuve », c'est donc important. Le pape considère que, comme chacun d'entre nous, la souffrance est un mal et une épreuve, mais il poursuit, la souffrance peut néanmoins être vécue par amour et avec amour comme participation par un don gratuit de Dieu et par libre choix personnel aux souffrances même du Christ crucifié. Ce que d'ailleurs le catéchisme de l'Église catholique rappelle en parlant de l'onction des malades, vous savez, le sacrement des malades. Par la grâce de ce sacrement, le malade reçoit la force et le don de s'unir plus intimement à la passion du Christ. Donc, c'est vrai que pour un chrétien convaincu, la douleur peut avoir, d'une certaine manière, un sens pénitentiel et salvifique, c'est-à-dire offrir sa souffrance, l'unir à la passion du Christ pour le salut de son âme et le salut des âmes ou le bien des âmes. Néanmoins, et c'est le point sur lequel j'insiste, il est nécessaire, rappelle l'Église, de soulager la souffrance, c'est un devoir de charité. Ce que disait d'ailleurs le pape Pie XII dès 57 ou 1958, les souffrances, disait Pie XII, aggravent bien souvent l'état de faiblesse et d'épuisement physique, entravent l'élan de l'âme et minent les forces morales au lieu de les soutenir. Et c'est la raison pour laquelle le pape Pie XII insistait sur, disons, la légitimité du recours aux analgésiques pour combattre, bien sûr, les douleurs physiques. On peut se reporter aussi à d'autres textes. Un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui s'appelle « Le bon Samaritain » et qui date de 2020, dans lequel il est écrit, je le lis, « La détermination d'une thérapie efficace pour soulager la douleur permet aux patients d'affronter la maladie et la mort sans craindre une douleur insupportable. Ce remède devra nécessairement être associé à un soutien fraternel permettant de surmonter le sentiment de solitude du patient, souvent causé par le fait de ne pas se sentir suffisamment accompagné et compris dans sa situation difficile. » Au-delà de ce problème de la souffrance, on arrive donc à un point très important de la position de l'Église, qui est le rappel de l'importance fondamentale d'ailleurs des soins palliatifs, de ce qu'on appelle les soins palliatifs, que Jean-Paul II définit de la manière suivante. Ces soins sont destinés à rendre la souffrance plus supportable dans la phase finale de la maladie et à rendre possible en même temps pour le patient un accompagnement humain approprié. Je crois que c'est donc très important de comprendre effectivement cette notion de soins palliatifs. Là aussi, dans le document Dignitatis Infinita de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui date de 2024, il est écrit « Il est certain que la dignité de la personne malade dans un état critique ou terminal exige de chacun les efforts appropriés et nécessaires pour soulager ses souffrances par des soins palliatifs appropriés et en évitant tout acharnement thérapeutique. Ces soins répondent au devoir constant de comprendre les besoins du malade, d'assistance, de soulagement de la douleur, besoins émotionnels, affectifs et même spirituels. » Il est malgré tout important de peut-être faire une parenthèse sur le problème de l'acharnement thérapeutique, auquel il a été fait référence il y a un instant, car contrairement à ce que beaucoup imagine ou à ce que l'on entend parfois dire, l'Église s'est toujours opposée à ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire des soins disproportionnés. Elle le fait, par exemple, dans Evangelium Vitae, l'encyclique sur l'évangile de la vie de Jean-Paul II en 95. Il faut distinguer, écrit le pape, distinguer de l'euthanasie la décision de renoncer à ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire certaines interventions médicales qui ne conviennent plus à la situation réelle du malade parce qu'elles sont désormais disproportionnées par rapport aux résultats que l'on pourrait espérer ou parce qu'elles sont trop lourdes pour lui et pour sa famille. Donc il est tout à fait légitime, rappelle le pape, de renoncer à des traitements disproportionnés, à interrompre, si vous voulez, des soins, ou plutôt non, des traitements qui sont effectivement disproportionnés et excessivement pénibles pour un résultat qui n'est pas satisfaisant. C'est un point très important qui nécessitait d'être rappelé avant, tout simplement de rappeler aussi la position de l'Église, tout simplement sur le suicide assisté et l'euthanasie, que l'Église condamne et a toujours condamné. Le pape François l'a fait il n'y a pas très très longtemps en rappelant qu'il s'agissait là d'une fausse compassion qui consiste à donner la mort ou se donner la mort dans le cadre du suicide assisté pour mettre un terme à des souffrances jugées insupportables. Le pape François, lui, il parle de la culture du déchet et il écrit « On ne peut pas céder à la tentation d'appliquer des solutions rapides et draconiennes en étant animé par une fausse compassion ou par de purs critères d'efficacité et de rentabilité économique. » Donc c'est un point, je crois, très important qui mérite d'être souligné, d'autant que la demande de mourir qui émane de certains malades en fin de vie ou de certaines personnes très, très, très handicapées est le plus souvent un appel à l'aide. Elle est très souvent conditionnée, cette demande de mourir, fortement conditionnée, donc très à relativiser, du fait de la douleur et de la maladie. Donc la liberté de demander à mourir, en réalité, elle est souvent conditionnée par une douleur qui pourrait être soulagée et qui peut l'être dans l'écrasante majorité des cas par des soins palliatifs appropriés, mais malheureusement toujours très insuffisants. En tout cas, si l'Église enseigne que l'euthanasie est moralement irrecevable, parce qu'elle consiste à donner la mort pour supprimer la souffrance, ce qui n'est ni un soin, ni finalement un accompagnement, Elle rappelle aussi que ceux qui adoptent, hein, je cite là aussi la Congrégation pour la doctrine de la foi en 2020, ceux qui adoptent des lois sur l'euthanasie et le suicide assisté sont complices du grave péché que d'autres commettront. Ils sont coupables de scandale car ces lois contribuent à déformer la conscience même des fidèles. Les systèmes juridiques qui ont légitimé le suicide assisté et l'euthanasie montrent également une nette aggravation de ce phénomène social. Autrement dit, il n'existe aucun droit au suicide, au suicide assisté, ni à l'euthanasie. Néanmoins, et en conclusion, il est important de s'arrêter en cette période de Semaine Sainte en particulier sur finalement un point très important qui est que pour l'Église, bien entendu, ce qu'on appelle la fin de vie n'est pas une fin. C'est le mystère de la mort. Assurément, la médecine doit accepter la limite de la mort comme faisant partie de la condition humaine. C'est ce qui est écrit dans la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 2020 qui s'appelle Samaritanus Bonus, c'est-à-dire le bon samaritain, qui rappelle donc qu'aux yeux de l'Église et pour tous les chrétiens, la mort, contrairement à ce que l'expression « fin de vie » pourrait laisser penser, n'est pas une fin. Elle n'est pas la fin de la vie, mais un passage vers la vraie vie.
Olivier Drapet, merci beaucoup.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.